Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Brigitte.
Bonjour tout le monde.
Donc nous nous retrouvons pour cette émission Ma commune est utile. Nous allons faire un petit peu le point dans nos communes, ce qui se passe avec la vaccination. Vous en êtes où actuellement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que votre population et les personnes âgées sont bien vaccinées? Tout ça.
Alors, en règle générale, ça se passe super bien, puisque de plus en plus de gens se font vacciner. Bon, il y a quelques litiges, bien sûr. Je vois Brigitte qui fait quelques signes désapprobateurs, mais bien sûr qu'il y a, quelques problèmes. Mais dans l'ensemble, je veux dire que les gens aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait se faire vacciner et que c'est le seul remède un petit peu contre ce Covid, si on ne veut pas le garder éternellement. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on peut déduire. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous savez qu'il y a des élections qui vont arriver et que la loi, enfin l'État, a demandé à ce que tous les accesseurs, les scrutateurs, les élus qui participent au vote puissent être vaccinés s'ils le souhaitaient. Donc là, il y a un processus qui s'est mis en
place. Ouais, on reviendra un petit peu sur cette question-là tout à l'heure. Parlons-nous de ta population. Est-ce que les plus de 75 ans ont presque tous été vaccinés sur ta commune? Et quels moyens vous avez mis pour le faire?
En gros, en général, il y en a pratiquement 95% de vaccinés par rapport à ce que je sais. Et ça a été mis en place surtout pour ceux qui avaient des difficultés à se déplacer. Ça a été relié par la communauté d'agglos et par les communautés de communes qui ont trouvé des solutions pour aller chercher les personnes en difficulté, les handicapés ou les personnes seules, pour les amener dans les centres de vaccination. Voilà comment ça s'est passé. Bien sûr, il y a aussi les familles qui étaient proches et qui pouvaient les amener. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de centres de vaccination qui se sont ouverts. Et c'est vrai que quelque part, c'est beaucoup plus fluide que ça l'a été à une époque.
Oui. Alors moi, chez moi, ça se passe bien aussi. Enfin, je veux dire, dans la majorité des cas, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes ont envie de se faire vacciner. Les jeunes, pour d'autres motifs que les anciens. Hein, les anciens, protéger un peu la famille, voir un peu. Les jeunes, c'est surtout pour pouvoir partir en vacances cet été. Les plus jeunes, enfin, de mon entourage, en tous les cas. Et certains qui vont devenir assesseurs aussi en ont profité aussi, pensent que c'est une bonne idée pour pouvoir bouger hors de France.
C'est quoi les jeunes, Brigitte?
Les jeunes, je dis la trentaine, quarantaine, 45 ans, voilà, ceux qui ont envie de bouger un peu, de s'en aller, voilà. En périphérie, peut-être en Europe. Hein. Après, moi, je mets un bémol aussi dans la campagne qui a été créée, enfin, qui a été soutenue pour les plus de 75 ans qui avaient du mal à se déplacer. C'est vrai que c'est les communautés de communes qui étaient en charge de les transporter, sauf que ça a viré exclusivement sur le dos des communes, puisque c'était à toi, après, une fois qu'ils avaient recensé les noms, de te débrouiller pour les emmener, quand même, pour pas dire que la communauté de communes s'est mise à transporter les personnes. Bon, voilà. Une autre chose aussi, un bémol, parce que j'ai le cas chez moi actuellement, et bien des gens qui se sont présentés pour avoir la deuxième injection, il n'y a pas de vaccin. Donc là, ça pose de réels soucis quand même, parce qu'ils n'ont pas de date. C'est reporté de jour en jour, repoussé d'une semaine et au-delà. Et ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas être obligés de refaire la première injection. Donc alors, tout le positivisme que vous avez, c'est bien. On dirait la télé, là. Vous voyez, je suis contente parce que franchement, j'ai l'impression que je suis à la télévision. Ce que je viens d'entendre à la radio, on nous bourre le chou. Sauf que sur le terrain, eh bien, il y a quand même des gros couacs. Et le gros couac, c'est ça, quand même. On a des gens qui ont 60 ans, qui sont malades et qui n'ont pas la deuxième injection. En tous les cas, sur notre territoire. Donc, et puis, on est 30 millions à avoir reçu la première injection. Si tu la reçois dans les délais, ça va. La deuxième, si tu ne l'as pas, on fait quoi? Enfin, je veux dire, il y a tout un truc derrière. OK, il faut être optimiste. Je ne vais pas me mettre à être pessimiste. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Il faut être vigilant. Et puis surtout, profitez-en. Si vous avez l'occasion, faites-vous vacciner. Voilà.
Donc pour toi, le fait qu'ils sont en train de prioriser la première injection au détriment de...
Et de la seconde,
de couverture totale. Eh ben,
sur notre territoire, là, on a des gens qui reviennent en mairie depuis cette semaine et qui me disent « j'ai pas pu avoir ma deuxième injection ». Et là, tu te poses la question, est-ce que c'était utile à ce moment-là de faire la vaccination, à la première vaccination à des primos qui arrivent, plutôt que de s'assurer que les deuxièmes ont la dose. Donc à un moment, moi je suis maire et responsable, à un moment c'est pas moi qui suis responsable de la vaccination, fort heureusement. Mais il y a quand même quelques loupés de taille. Donc il faudrait quand même voir un peu... j'ose espérer que ceux-là auront vraiment la deuxième injection relativement dans les temps. Bon, après... Voilà, c'est aussi le bémol que je voulais porter.
Donc, mais voilà, le bémol, mais tout à fait Brigitte dans ses propos. Et c'est vrai que quelque part, bon, mais on n'est pas...
J'ai toujours un contre-exemple.
Oui, on n'est pas toujours d'accord. Mais bon, ce que je reconnais, c'est que malheureusement, il y a des intercos qui marchent bien et il y a des intercos qui marchent plus mal.
Là, c'est même plus
c'est vrai, ça.
C'est même plus au niveau de la communauté. C'est la dose de vaccin qui n'arrive pas.
On va être d'accord un petit peu tous les deux, parce que c'est, je pense, tu l'as cité tout à l'heure, c'est pour ça que je dis qu'on allait y revenir. Le gouvernement a décidé les élections fin juin, et pour ça, il a mis des protocoles, dont un des protocoles, c'est la vaccination de tous les élus qui tiendront les bureaux de vote.
Ou un test PCR de moins de 48
heures.
Donc,
ce qui veut dire que là, on rajoute des gens prioritaires à la vaccination, certainement au détriment de d'autres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner les gens
qui sont assesseurs.
mais on s'aperçoit que ces élections, et là on va en parler un petit peu parce que je pense que vous avez des difficultés, puisqu'il y a deux élections en même temps, départementales et régionales. Donc ça veut dire qu'il y a le doublement des bureaux de vote.
Ça a été décidé entre les associations d'élus, donc l'AMF et pour nous l'AMRF. On était avec mon collègue Bruno Lamonnerie, nous étions toutes les semaines pour parler de ça avec le préfet. C'est vrai que la décision
c'est
a été prise...
C'est les maires ruraux, hein.
L'AMF et l'AMRF.
Oui, mais l'AMF, chez nous, en Dordogne, c'est l'Union des maires.
Ça représente l'AMF. On est bien d'accord, Brigitte.
C'est une précision.
Mais enfin, les deux associations principales d'élus du département ont été autour de la table avec le préfet. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme il y a deux scrutins, il y a les régionales et les départementales, chaque scrutin, chaque commune aura pu... Par bureau de vote, proposer 15 noms. 15 noms pour passer automatiquement à la vaccination, au choix, bien sûr, des gens d'être vaccinés ou pas. S'ils ne veulent pas être vaccinés, bien sûr, il y aura des tests sur place. Ça ne les empêche pas de pouvoir tenir un bureau de vote. Par contre, ça s'est bien lancé, puisqu'on est passé par le relais aussi des intercommunalités. Les recensements ont été faits par tous les maires, je dis à préciser, tous les maires de chaque commune, qui ont fait remonter donc pour les communes rurales 15 noms, pour les autres un peu plus, bien sûr. Moi, je parle des communes rurales. Donc tous les maires ont fait remonter 15 noms à vacciner. Bien sûr, ça a permis, parce qu'il y en avait dans le lot qui étaient déjà vaccinés, ça a permis aussi de voir avec les personnels, des secrétaires qui sont souvent là au dépouillement, de pouvoir les faire vacciner aussi. Donc ça marche relativement bien, puisque les doses étaient présentes. Il y a à peu près entre 3 et 4 000 doses pour le nombre de gens à vacciner. Les doses étaient là et les centres de vaccination ont été regroupés donc par territoire. Et c'est vrai que quelque part, on appelait les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner. Et d'ores et déjà, de ce que je sais, c'est que ce week-end, il y a eu pas mal de vaccinations de fête dans toute la Dordogne. Donc au niveau des bureaux de vote... Je crois que là, c'est gagné. Les gens auront pu être vaccinés. Ceux qui ne pourront pas, il y aura des tests. Par contre, ce qui a été préconisé aussi, c'est de décentraliser les bureaux de vote de la mairie vers la plus grande salle de la commune, c'est-à-dire en principe la salle des fêtes, en la tenant aérée, même si c'est possible de pouvoir faire des dépouillements ou des bureaux de vote s'il fait beau au mois de juin sous les préaux.
Pour pas qu'il y ait un coup de vent, hein, parce voilà, que je ne te dis pas les élections.
S'il y a un coup de vent, on rentre.
Mais aujourd'hui,
au moment du dépouillement, je pense que là, tu es en train de... Voilà. Tu parlais de tests à faire, on fera des
Brigitte
tests.
Brigitte est en forme.
Non, exactement. Tu parlais de « on fera des tests, on ne fera pas des tests ». Les tests, ils seront faits 48 heures avant, enfin moins de 48 heures, c'est des tests PCR.
Exactement.
Il faudra qu'ils nous fournissent avant d'entrer dans le bureau de vote.
Voilà.
Mais donc, juste parce que, de fait, les bureaux de vote sont doublés par rapport aux anciennes campagnes.
Où tout on à fait. Pas tout à, enfin, ils sont doublés, mais pas tout à fait. Le président peut rester le même, la secrétaire aussi. Enfin, voilà,
ouais, non, mais des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, au niveau de l'organisation, c'est souvent oui, des c'est élus.
Ce sont souvent les maires, on a l'habitude.
Et les conseils.
Je sais, mais je prends ma commune, on passe de 2 à 4 bureaux. Ça veut dire que tout le conseil municipal est présent toute la journée pour tenir les bureaux de vote.
C'est pas exclusivement les conseillers municipaux, les agents...
Non, mais c'est souvent ça.
Oui, c'est souvent ça, mais là, il peut exceptionnellement y avoir des agents communaux recrutés, il peut y avoir des gens de la population, ça peut être n'importe qui.
Non, mais, donc,
c'est le président qui décide.
Oui, non, mais il est intéressant de profiter de cette émission de radio pour dire aux gens s'ils veulent être assesseurs pour aider...
Qui se manifestent,
parce que...
Ou alors s'ils veulent un vaccin,
La personne qui va te dire le bureau de vote de 8h le matin jusqu'à 8h le soir, sans pouvoir trop partir, ça va être une longue journée pour eux, quoi. Ouais, donc s'il y avait quelques copains qui pouvaient venir les aider, ça ferait du bien à tout le monde, quoi.
Alors tu parles ça peut-être pour les bureaux de poste, c'est un lapsus, hein, avec la poste.
Mais moi, je vais citer mon cas. Je vais citer mon cas en exemple. J'ai deux jeunes de la commune qui ont 40-45 ans, qui souhaitaient être vaccinés et qui se sont engagés de tenir le bureau de vote,
voilà,
venir nous aider.
Bon,
on en a profité.
C'est bien, exactement.
De pierre, on fait deux coups.
Ce que je voulais dire,
on les vaccine et ils vont nous aider.
C'est peut-être plus compliqué pour les communes qui ont plusieurs bureaux de vote ou, bon, à partir de 4, ça commence à faire. Mais pour les scrutins normaux dans les petites communes, c'est souvent les conseillers municipaux qui s'y collent. Et après, c'est fait tu vois pas passer le sang non plus. Faut pas dire que c'est vraiment un dur labeur. Après, si t'as des assesseurs qui veulent te donner un coup de main, qui veulent être présents, c'est avec plaisir, puis c'est de leur devoir aussi, c'est de se manifester. Je vous rappelle quand même que si jamais il n'y a pas le monde d'assesseurs, le président de bureau de vote était en capacité de retenir les premiers qui viennent voter en leur disant, écoutez, vous sortez plus, maintenant vous devenez assesseur. Donc à un moment, vaut mieux faire ça volontairement que forcer, quoi.
Mais pour finir, là, on se rejoindra,
toujours.
Brigitte.
Mais on se rejoint toujours, Alain.
On pourra dire de dire à nos administrés, il va faire beau, peut-être, au mois de juin, mais surtout, n'hésitez plus, venez voter, il y aura les personnes compétentes pour vous recevoir.
Exactement.
Voilà.
Et puis, deux week-ends d'affilée.
Et deux week-ends d'affilée.
Pour perdre les bonnes habitudes.
Voilà.
Le plus embêtant dans tout ça, ça va être de faire les plans de nos bureaux de vote pour éviter que les gens se croisent, pour éviter des choses comme ça. Mais on a été aidés par la préfecture qui nous a fourni des croquis, plein de belles choses et plein de conseils. Je pense que c'est possible. Après, multiplier ces bulletins de vote sur les grosses communes, là, ça pose peut-être problème.
Parce qu'il faut qu'on fasse attention. Aux dernières élections, en plein confinement, il y a eu quelques clusters qui ont été...
C'est
pas une généralisation, mais bon...
On n'était pas au même degré de confinement.
Non, il y a des
clusters. On était en pleine crise. C'est vrai que c'est pas la même chose. Mais enfin, il faut faire attention.
Il faut être prudent, et puis il faut surtout respecter ce qui nous est demandé de faire.
Le terme est réaliste, protégez-vous.
On va faire une petite pause musicale.
On est déjà au quart d'heure.
Ça passe vite hein, quand on a des choses intéressantes à dire.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, nous allons reprendre le cours de notre émission avec un autre petit sujet sur lequel je crois qu'on va se fâcher un petit peu. C'est la question des déchets.
La question des déchets.
On ne va pas se fâcher.
On ne va pas se fâcher, mais on va dire les choses telles qu'on le voit et telles qu'on le pense. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une association, Dordogne Défense et Justice, qui envoie à tous les maires un mail en expliquant un petit peu leur façon de voir les choses. Mais bon, moi j'ai répondu à ce qu'ils demandent par rapport à nous, ce que l'on pense. D'abord, je leur rappelle quand même qu'il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire une quinzaine d'années, rappelez-vous. C'est un président de département qui avait proposé devant ce sujet-là, qui avait proposé de faire un débat participatif sur les ordures ménagères. Et c'est vrai que c'est les concitoyens, ce sont les gens du peuple qui ont choisi...
De l'époque,
qui ont choisi contre un incinérateur qui aurait été certainement la solution la plus raisonnable, qui avait choisi de...
L'enfouissement.
Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on a une véritable... Comme je dis, on a une véritable... poubelle géante nauséabonde à Saint-Laurent-des-Hommes. Alors on peut dire ce qu'on voudra, que c'est bien géré, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut, mais n'empêche qu'on est en train de laisser quelque chose pour nos enfants qui, moi, ne me convient pas, et je pense que ça aurait été mieux de faire un incinérateur, d'autant plus qu'aujourd'hui, les dioxines ne provoquent plus ce qu'à l'époque les gens critiquaient. Brigitte, tu veux intervenir?
Je te laisse intervenir. Puisque tu parles d'enfouissement, il est vrai qu'à l'époque de ce débat participatif, on avait tous plaidé, enfin les élus du coin de Seneuil, moi je suis voisine de Saint-Laurent-des-Hommes, donc Saint-Barthélemy de Bellegarde, je suis juste à côté, et donc je plaidais pour un incinérateur, mais j'ai plaidé dans le désert, parce qu'à partir du moment où le président du conseil départemental était pour l'enfouissement, on connaît bien la force du département derrière le président qui a voté pour un enfouissement. Ce que je voulais rectifier quand même, on a une grande poubelle, c'est vrai, c'est une grande poubelle, mais je suis élue, moi, depuis 2001. Et depuis 2001, je vais vous dire qu'on a eu d'énormes améliorations. Autrefois, on ne pouvait pas laver le linge, l'étendre dehors, vous ne pouviez pas sortir. Les enfants qui arrivaient à l'école le matin étaient pris de vomissements parce que les odeurs étaient tellement nauséabondes que c'était vraiment infernal. À un moment, à force de... Bon, il y a eu la période des chiens qui avaient été empoisonnés par l'Elixivia et autour du fameux centre d'enfouissement. Enfin, il y a eu plein de d'épisodes qui ont amené quand même à un centre d'enfouissement. C'est pour ça aussi qu'une partie des gens payent très cher leurs ordures ménagères, parce que la taxe ou la redevance, parce qu'à un moment, on a quand même un centre d'enfouissement qui permet quand même la réhabilitation des déchets, certains au moins l'enfouissement, dans des conditions qui sont différentes de ce qui a été fait il y a 10 ou 15 ans. Là, c'était des fosses, on recouvrait. Maintenant, c'est différent. D'abord, on traite les jus. Les lixivias sont traités sur place. Ça a coûté 2 millions d'euros. Alors, je ne vais pas dire, je ne plaide pas pour l'enfouissement. Je suis voisine et je voudrais bien que ça s'arrête un jour. Mais actuellement, dans le département de la Dordogne, ça ne s'arrêtera pas. Il faut en être conscient quand même. Ou alors, si l'argent, le département de l'argent a dépensé, il faudrait faire un incinérateur maintenant. Mais je crois qu'on a raté le coche.
Je crois que le débat il doit être...
Le débat est plutôt sur les points d'apport volontaire.
Voilà, maintenant, c'était pour donner...
Il y a deux choses. Je crois qu'il faut bien préciser les choses pour nos auditeurs, parce qu'il y a la partie collecte des ordures ménagères qui, théoriquement, incombe aux mairies et maintenant au SMD3.
Non, c'est pas aux mairies, c'est aux collectivités, nous.
C'est les EPCI.
Alors,
c'est ce que je dis. Il ne faut
pas tout confondre.
Voilà.
C'est pas les mairies.
Ce sont les EPCI qui ont la compétence.
C'est les communautés de communes.
Et cette compétence, elle est due à quoi? Parce qu'elle aurait dû être optionnelle.
Voilà.
Pourquoi cette compétence, elle existe aujourd'hui? C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est encore notre fameuse loi NOTRe qui a mis tout ça en place. Mais la loi NOTRe,
c'est elle
la responsable. Et la loi NOTRe, c'est le gouvernement.
Ce ne sont pas les mairies. Il faut remettre les choses en place.
Voilà. Je crois que c'est bien important de séparer le débat.
Il fallait le dire.
Entre la collecte et après. La question du traitement. Il y a deux choses qu'il faut voir.
Oui, mais c'est en même temps.
Après, elles peuvent être en même temps, mais il y a beaucoup de la population rechigne à la nouvelle forme de collecte, parce que c'est plus de collecte, puisque c'est les gens qui l'apportent. Donc c'est plus de la collecte.
Oui, mais quelque part, tu collectes quand même. À des endroits, tu es bien obligé de les ramasser. Donc
c'est là-dessus qu'il y a vraiment un problème.
Qu'est-ce qu'on peut résumer à l'heure d'aujourd'hui? Il faut parler de ce qui s'est passé, et c'est vrai que nous avons eu des présidents de par le passé du SMD3 qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire avec des vrais débats, qui ont choisi de mauvaises options.
Qui n'ont pas communiqué
et qui ont dépensé beaucoup d'argent. Et ça, aujourd'hui, ça se retourne contre eux parce que les EPCI se rendent compte que d'année en année, on paye de plus en plus ces fameuses ordures ménagères, ce traitement des déchets, cette collecte des déchets. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, et c'est là-dessus que les maires, on est responsables, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place politiquement, c'est-à-dire ce sont des élus autour du maire de Corsac, M. Protano. Laissons-leur le temps de juger. Alors, ils viennent dans les EPCI, ils viennent voir les élus, ils viennent voir les maires, ils discutent, ils proposent, ils écoutent. Et il faut attendre, moi, à mon avis, au lieu de suite se rebiffer et puis de donner des avis, laissons-les travailler. Je pense qu'il y a des gens autour de M. Protano qui sont responsables. Ce sont des vice-présidents et des élus qui ont été spécifiquement élus pour gérer ce problème-là. Ils vont faire des propositions. Il faudra s'en tenir. Je pense qu'ils vont quand même... Quel est l'intérêt de la situation? C'est de défendre d'abord les concitoyens au niveau du social et au niveau du prix. Et puis derrière ça, il faut regarder l'intérêt général. Alors c'est vrai, ça va coûter de l'argent, ça coûte de l'argent. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Et je crois que si aujourd'hui le SMD3 est critiqué, c'est qu'il y a eu des erreurs. Il faut revenir sur ces erreurs, il ne faut plus en faire.
Ouais.
Et c'est là le pari de M. Protano, on le regarde. Mais moi, personnellement, je fais confiance à l'équipe en place. Dans mon EPC, dans ma communauté d'agglo, on a décidé et on regarde ça. Laissons-leur le temps de travailler. Laissez-nous le temps de pouvoir juger de ce qui va se passer.
Alors, la communauté d'agglo d'Alain, c'est Bergerac. Parce que tu parles de comité d'agglo tout le temps. Voilà. Moi, de mon côté, je voulais rappeler quand même que c'est la loi, c'est le président de la République qui nous force aussi à trier nos ordures de mieux en mieux. Et donc, le point d'apport, c'était aussi en cela qu'il a été abordé. Je vous rappelle quand même que d'ici 2025, la taxe de polluants des ordures ménagères, elle est actuellement de 15 euros la tonne, c'est-à-dire que les centres d'enfouissement paient 15 euros quand la tonne est enfouie au gouvernement. À partir de 2025, elle peut monter jusqu'à 65 euros la tonne. 65 euros la tonne, ça veut dire que ça multiplie la tonne d'ordures. Donc, je sais que le centre d'enfouissement de Seneuil, eh bien, il faut que d'ici 2025, il ait réduit de 50% son enfouissement. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut absolument que nous, particuliers, on le génère le moins d'ordures possible. Et bon, le choix qui a été fait d'apport collectif, bon, ça a été fait comme ça. À prendre ou à laisser. Enfin, je serais tentée de dire que puisque ça y est, il y a des endroits où ça marche pas mal du tout. Moi, je suis maire de ma commune. Quand les gens ont des difficultés, eh ben, on essaye de devancer les difficultés, de voir les gens s'ils peuvent pas se déplacer, de les aider. On est aussi là pour ça. On aide des gens pour des tas de choses. Et pourquoi pas celle-là, hein ? Alors, je reconnais que c'est peut-être plus facile dans une commune de 500 habitants qu'une commune un peu plus importante. Mais moi, je serais comme Alain, c'est laisser le temps. Parce qu'ils sont sollicités de partout, même nous. Hein. Nous, au niveau des salles des fêtes, on a des problèmes. Au niveau des restaurants, on a des problèmes. De l'apport volontaire, voilà. Est-ce qu'on va laisser des conteneurs ? Il y a peut-être un système de conteneurs pour les salles des fêtes qui vont nous laisser en location à l'année. Auquel cas, on les appellera quand ce sera plein. Il y a aussi des possibilités. Et il faut leur laisser le temps de réagir, puisque c'est une nouvelle équipe. Je serais assez d'accord avec Alain. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Ça, je le sais.
Bien sûr, déjà, a priori, M. Protano a décalé la redevance.
Il l'a fait avec intelligence, justement, pour qu'on puisse débattre.
Donc, peut-être aussi débattre, je ne sais pas.
Bien sûr, on va en débattre. Ça a démarré, le débat.
Dans les secteurs, comme dans le nord du département, où il n'y a pas encore mis en place pour qu'effectivement...
Moi, ce que je regrette, c'est que les médias mettent du feu, de l'huile sur le feu. Et c'est vrai que, quelque part, les gens, sans savoir... Et puis, bon, je répète encore une fois, il va falloir aussi faire quelque chose contre l'incivisme. Maires, je vous rappelle qu'un maire a été tué à cause des ordures ménagères, des dépôts sauvages. Ouais, des dépôts sauvages, moi j'en connais une multitude dans la Dordogne. Donc il faudrait peut-être aussi que le pouvoir du maire soit vraiment regardé, parce que le pouvoir du maire, il devient aujourd'hui, il tombe en déliquescence, et c'est vrai que les procureurs de la République ne remplissent pas leur rôle. La loi engagement et proximité leur impose de réunir les maires pour leur parler des pouvoirs du maire. En Dordogne, ils ne l'ont jamais fait. Je l'ai rappelé deux fois au préfet, je l'ai rappelé au secrétaire d'État à la ruralité. Moi, j'attends que le procureur de la République, il m'invite pour me parler du pouvoir que je peux avoir sur cet incivisme, sur ce qu'il faut faire.
Tu n'en as aucun pouvoir. De toute façon, dans nos communes, on connaît ceux qui ont aussi de l'incivisme. C'est 2% de la population qui font payer les 98% d'autres. Parce que vous avez des... Moi, je suis passé depuis plus d'un an au point d'apport volontaire. La plupart des gens, ça va, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incivilité. Il n'y a pas de... Donc, voilà, ça peut aussi marcher, quand même. Je vous rappelle quand même qu'il y a des tas de régions. C'est en place depuis 10 ans. Et ça marche très bien. Donc, à un moment, c'est vrai que c'est un peu... Il y a des améliorations certainement à apporter. Mais il faut voir et laisser le temps.
On en redébattra parce que...
On a très peu de temps, mais on y reviendra.
Le service public des ordures, c'est un gros débat. Et je crois que...
On a plein de choses à dire.
C'est promis, on y reviendra. Mais on a déjà fait un premier pas, là.
Juste avant de finir, parce que je crois qu'il nous reste à peu près une minute. Alain, tu voulais dire un petit mot sur les radios libres ?
Eh bien, les radios libres, d'abord, on est toujours sur RLP. Ça marche très bien, puisque je vous ai déjà dit qu'on avait un énorme succès, si bien que, ça y est, j'ai signé. Nous allons avoir notre émission maintenant sur deux radios locales sur le Bergeracois, puisqu'on était sur le haut du département. On va maintenant aller dans le sud. Et Radio Vallée Bergerac et Radio 95 nous ont proposé une émission aussi mensuelle. Peut-être pas dans le même genre, mais bravo, c'est gagné. C'est-à-dire que, eh bien, on va nous écouter sur l'ensemble du département et on en est ravis.
Exactement.
Eh ben, c'est un progrès. J'espère que tous les auditeurs seront ravis de toute la Dordogne. Je vous souhaite une bonne journée et puis au mois prochain.
Au mois prochain,
et
avec plaisir.
Et protégez-vous.